Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, le podcast de l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la thématique école et violence, et plus précisément la question de l'évolution de ces violences à travers les époques. Quelle est la définition des violences scolaires et comment a-t-elle évolué au fil du temps ? Quel rapport la société a-t-elle entretenu, selon les époques, avec la violence au sein de l'institution scolaire ? Quelles réponses ont pu être apportées et avec quelle efficacité ? Pour en parler, nous recevons Bruno Robe, professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, à l'INSPE de l'Académie de Versailles, université de Cergy-Pontoise, membre du laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage. Il est notamment spécialiste des questions liées à l'autorité et aux violences à l'école. Bonjour Bruno Robe.
Bonjour.
Comment définiriez-vous les violences en milieu scolaire ?
Alors pour moi, les violences en milieu scolaire sont des faits qui sont qualifiés de violences par le code pénal, qui se déroulent sur le territoire de l'école ou qui peuvent se dérouler aussi à ses abords et qui empêchent les missions d'enseignement et d'apprentissage de s'exercer. Ces faits peuvent provenir d'acteurs de l'école ou aussi de l'extérieur, parce que l'école n'est pas imperméable aux problèmes extérieurs. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle les violences institutionnelles. C'est le fait que l'institution scolaire, parfois, est à l'origine de certains actes qui s'exercent sur les élèves, les parents ou les personnels. Du côté des personnels, ça peut rejoindre ce qu'on appelle aussi un sentiment de pression hiérarchique de la part des cadres intermédiaires. Il y a aussi une autre façon de définir les violences à partir de ce que les acteurs qualifient comme violent, notamment donc à travers les enquêtes de victimation. L'idée là, c'est de s'en tenir à ce que les acteurs qualifient comme tel, qualifient de violence, donc on s'en tient à leur parole, et donc on élargit le champ des situations par rapport aux catégories du code pénal. Je considère plutôt que le code pénal, c'est quand même une forme de juge de paix, parce que ça permet effectivement de déterminer ce qui relève des violences et ce qui n'en est pas.
Quelles formes ont pris les violences à travers l'histoire ? Comment la conception même des violences a-t-elle évolué au fil des époques ?
Le rapport de nos sociétés à la violence évolue en fait continuellement, parce qu'il est lié au rapport aux normes socialement acceptables. On peut prendre un exemple classique, il y a 40 ou 50 ans, quand un enseignant donnait une gifle à un élève, eh bien, il ne risquait pas le dépôt de plainte. Ça a changé aujourd'hui, on ne peut effectivement que s'en réjouir. On voit bien que selon la sensibilité sociale à ces questions, eh bien, ce qu'une société considère comme violent évolue. Des chercheurs observent depuis les années 90 une transformation, une forme d'inversion du rapport école-violence. On est passé d'une époque où l'institution scolaire pouvait être physiquement violente à l'égard des élèves, certains chercheurs parlent de phénomène école-caserne, à une époque où la société va considérer plutôt que certains élèves, notamment des élèves de milieux populaires, seraient une sorte de délinquants juvéniles qui s'attaqueraient à l'école. Donc le problème de la violence à l'école devient un problème de sécurité qui vise, on pourrait dire, certaines catégories de population, des familles socio-économiquement défavorisées, des familles monoparentales et donc qui seraient considérées comme ayant des comportements antisociaux, des parents, des élèves qui, entre guillemets, agresseraient l'école.
Vous avez parlé des milieux défavorisés. Le rapport à l'école est donc différent pour les autres catégories sociales ?
Du côté des catégories moins favorisées ou défavorisées ou populaires, ce qui est reproché à l'école, c'est de ne plus répondre, de ne pas suffisamment répondre aux espoirs de promotion sociale que ces milieux ont mis en elle. Et donc, du coup, ces catégories ont le sentiment qu'une violence symbolique s'exerce à leur égard, que l'école exerce à leur égard ce type de violence. Les jeunes aussi le ressentent, les élèves également le ressentent. Du côté des classes moyennes ou des milieux plus favorisés socialement, l'école n'est pas considérée de la même manière. Elle est d'abord un espace où les enfants doivent réussir et donc un espace où sévit pour eux une forme de compétition, on pourrait dire un peu exacerbée. L'école doit répondre à d'autres types de demandes. Ses parents sont plus dans un rapport, on va dire, de consommation d'une école qui doit leur rendre un service. Et ils réagissent donc plus en consommateurs. Ils vont convoquer leurs propres normes, des normes plus personnelles qui ne sont pas toujours en accord avec les normes de l'école. C'est ça qui est compliqué pour l'école aujourd'hui. Elle se trouve prise en étau, on pourrait dire, entre diverses récriminations qui sont différentes et qui émanent de différents milieux sociaux et qui sont différentes selon les milieux sociaux. Et donc ça favorise les tensions entre professionnels, enseignants et puis parents.
Alors, quelles réponses ont pu être apportées au fil du temps, que ce soit au sein de l'établissement ou dans la loi ?
Si on se base, je dirais, au niveau général, on peut dire qu'on connaît mieux les phénomènes de violence aujourd'hui dans les établissements scolaires, à la fois grâce à des enquêtes ministérielles et puis aussi grâce aux travaux des chercheurs. J'évoquais des enquêtes de victimation et d'autres types d'enquêtes. Donc on comprend mieux, on connaît mieux, on comprend mieux ces phénomènes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut dire que les lois aussi ont évolué. Je pense notamment à la circulaire de juillet 2000 sur les procédures disciplinaires dans les établissements scolaires du second degré. Et donc, on assiste depuis cette époque, on peut dire, à une forme de juridicisation de l'institution scolaire, c'est-à-dire que le système scolaire va se calquer sur les principes de la justice et du droit. Autre point aussi, on a vu se développer un certain nombre de guides ressources destinés au personnel, parfois très bien faits et donc utiles. On pourrait encore citer le développement d'interventions, de formation des personnels, de tous les types de personnels sur différents sujets. La prévention des violences, les sanctions possibles, le climat scolaire, les questions d'exclusion, de harcèlement, d'autorité. On peut dire aussi dans le champ de la formation toujours que des pratiques d'analyse de situations professionnelles en groupe d'enseignants, en groupe de chefs d'établissement, en groupe de surveillants, de conseillers principaux d'éducation. Un certain nombre de pratiques de formation dans le champ de l'analyse des situations professionnelles se sont développées. Et puis je citerai encore un dernier point, l'accompagnement d'équipes d'établissements, alors soit par des chercheurs, soit par des personnels des rectorats par exemple, qui au plus près, je dirais, des besoins des établissements, que ce soit des écoles primaires ou des collèges, des lycées, sont en mesure d'apporter des réponses clés en main, sur mesure plus exactement, sur mesure aux difficultés que ces établissements ou ces écoles rencontrent.
Dans l'actualité médiatique, on voit de plus en plus souvent des cas de violence à l'école. Cela veut-il dire qu'il y a davantage de violence qu'auparavant envers les personnels d'éducation ?
Alors si on regarde les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qu'on appelle l'enquête CIVIS, elles ont d'abord, on pourrait dire, l'inconvénient, un certain nombre de chercheurs l'ont pointé, de mettre en évidence les violences dont les personnels sont victimes, plutôt que les élèves. Donc elles grossissent un petit peu la loupe, on pourrait dire. Si on regarde la dernière enquête disponible, elle montre que dans les écoles primaires, publiques, les enseignants sont impliqués comme victimes dans la moitié des incidents qui sont signalés par les inspecteurs de l'Éducation nationale. Dans le second degré, toujours dans les établissements publics, et privés sous contrat également, on voit que les enseignants sont victimes dans un quart des incidents graves signalés par les chefs d'établissement. Donc cette violence envers les enseignants est principalement verbale, surtout dans le second degré. Elle émane aussi à part égale des familles d'élèves et des élèves. Donc voilà ce que nous disent les dernières enquêtes officielles. Pour autant, la structure générale des violences à l'école, en particulier à l'égard des personnels, celles dont les enseignants sont victimes, est assez connue et reste assez stable.
Il y a en effet le sentiment pour les enseignants que leur parole est de plus en plus souvent remise en cause. N'est-ce qu'une impression ?
Alors oui, j'avais observé déjà ce phénomène en travaillant sur les questions d'autorité enseignante, parce que cette question de la remise en cause de la parole enseignante à travers les savoirs parfois qui sont enseignés, à travers aussi les actes de discipline posés par les enseignants, les sanctions par exemple, effectivement, cette parole-là est de plus en plus discutée, parfois contestée, alors non seulement par des élèves, mais aussi par des parents d'élèves. J'ai regardé le dernier rapport de la médiatrice d'éducation nationale, donc, qui est sorti en juillet dernier. Et là, on observe, notamment donc après la crise sanitaire du Covid, que le nombre de saisines de la médiatrice ou des médiateurs de l'éducation nationale a augmenté. C'est 5 fois plus qu'il y a 5 ans.
Quels défis ces constats posent-ils plus largement à notre école et à nos institutions ?
Si on s'appuie sur des grandes enquêtes internationales, on peut dire qu'il y a 3 points essentiels sur lesquels il faut insister et qui sont évidemment des leviers. Tout d'abord, la qualité de la formation des enseignants. Et cette formation des enseignants, de mon point de vue, et beaucoup de chercheurs pensent de même, elle n'a cessé de se dégrader depuis un certain nombre d'années, peut-être depuis une vingtaine d'années. Deuxièmement, la considération de l'institution à l'égard des personnels, des enseignants et d'autres catégories de personnel. Et là aussi, on peut dire qu'il y a une dégradation. Troisième élément, les enquêtes qui ont beaucoup travaillé sur les réponses en classe et en établissement aux problématiques de violence à l'école insistent sur 2 réponses, les pédagogies coopératives et le travail en équipe. Il faut aussi regarder dans quel contexte se trouve l'école aujourd'hui, quel rapport la société a avec l'école. On a aujourd'hui un certain nombre de responsables politiques, d'acteurs aussi, je dirais, dans l'opinion publique d'une manière générale, également une hiérarchie de l'éducation nationale qui est en difficulté qui a du mal à considérer les enseignants. Et du coup, ça pose un certain nombre de problèmes, comme on l'a vu dernièrement sur le recrutement. Mais la difficulté, c'est que ces responsables, à travers les paroles qu'ils prononcent, à travers un certain nombre de mots qu'ils utilisent, arrêtent de mépriser à la fois les compétences des professeurs en les considérant comme des simples exécutants, alors qu'on met de côté effectivement le fait qu'enseigner, comme on le dit, est un métier et que ces professionnels ont des compétences et qu'il n'y a pas des personnes qui doivent penser à leur place leur métier, mais qu'il faut véritablement les associer à la fois au métier qu'ils pratiquent, avec les compétences qu'ils ont. Et si on souhaite que ce métier se transforme, pour répondre à de nouveaux défis, il faut aussi les associer à ces transformations. Et donc s'appuyer sur les compétences des personnels, en cessant notamment de les considérer comme des personnes qui obéissent simplement à des ordres venus d'en haut, ça me semble effectivement une question essentielle. Et encore une fois, que ce soit un certain nombre de responsables politiques ou aussi des cadres intermédiaires de l'éducation nationale, beaucoup ont du mal avec cette logique, on pourrait dire, un peu pyramidale, cette logique de fonctionnement autoritaire assez traditionnelle.
Merci Bruno Robe. Merci d'avoir écouté Parole d'expert, le podcast de l'ASL qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Pour écouter les autres épisodes, je vous donne rendez-vous dans la rubrique podcast du site internet de l'Autonome de Solidarité Laïque.